Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous commençons aujourd'hui le chapitre 4 de Saint Marc, avec la parabole très connue du semeur, sur laquelle les pères de l'Église se sont beaucoup, beaucoup arrêtés. Énormément de textes qui expliquent cette parabole et des termes de l'Évangile. Et donc, je vais vous résumer un petit peu ce qu'en disent les pères. Sur le fichier qui contient donc les chapitres 1 à 5 de Saint Marc, nous en sommes à la page 22. Donc voilà le texte, verset 1 à 9 du chapitre 4 de Saint Marc. Jésus se mit de nouveau à enseigner auprès de la mer et une foule nombreuse se rassembla autour de lui, de sorte qu'il monta dans une barque et s'assit sur la mer. Et toute la foule était à terre au bord de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en parabole et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Tandis qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce que la terre n'avait pas de profondeur. Et lorsque le soleil se fut levé, elle fut brûlée, car, et comme n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba dans les épines. Et les épines montèrent et étouffèrent et ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans une bonne terre et elle donna du fruit qui montait et croissait, de sorte qu'un grain rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Et il disait que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous allons voir, expliquer déjà un peu cette parabole. Ensuite, des versets 10 jusqu'à au verset 20 du même chapitre 4, notre Seigneur lui-même va expliquer cette parabole. C'est un des rares cas où il le fait. En général, il donnait les paraboles et puis il laissait les apôtres et les disciples et ceux qui l'écoutaient un peu sur leur faim pour qu'il les obligeait à réfléchir par eux-mêmes. Dans certains cas, il explique lui-même la parabole, soit seulement aux apôtres à qui il donnait un enseignement spécial, soit à toute la foule. Voyons ce que disent un peu les pères déjà sur cette première partie. Donc, Saint Jérôme dit que le Christ commence à enseigner sur le bord de la mer. C'est verset 1. Il se met de nouveau à enseigner auprès de la mer, comme pour indiquer par la nature du lieu qu'il a choisi l'amertume et l'inconstance de ses auditeurs. Pourquoi ? Parce que la mer est toujours en mouvement, et donc représente l'âme qui est toujours agitée par toutes les tentations du monde. Et Saint Bède le Vénérable dit que notre Seigneur sortit de la maison et continue ses enseignements sur le bord de la mer pour figurer qu'il devait laisser la synagogue pour réunir la multitude des nations par le ministère de ses apôtres. Une foule nombreuse se réunit autour de lui. Donc c'est une autre explication. La mer représente l'ensemble des foules, surtout des foules des gentils, dans le sens que les gentils étaient d'au-delà des mers. Et cette barque sur laquelle il monte, l'Évangile précise qu'il y avait tellement de monde, donc pour avoir plus de liberté de mouvement, donc il monte sur une barque à côté du rivage et de la barque dans laquelle il s'est assis, donc il enseigne. Et cette barque dans laquelle il monte, c'est la figure de l'Église qu'il devait bâtir au milieu des nations dans laquelle devait se consacrer une demeure qui lui serait chère. Donc cette barque, c'est la barque de Saint-Pierre, c'est l'église catholique qui a les promesses de la vie éternelle, donc elle a les promesses de ne jamais couler. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la barque. Et le bon Dieu peut permettre que même des gens qui étaient dans la barque, ou qui ont été dans cette barque pendant un certain temps, quittent la barque. Notre Seigneur Jésus-Christ nous laisse libres. Mais celui qui n'est pas dans la barque ne peut pas se sauver. Le seul moyen de salut, c'est cette barque, parce qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Il n'est point sorti en changeant de lieu, puisqu'il est présent dans tous les lieux, il est rempli de son immensité. Cette expression signifie simplement l'économie divine, d'après laquelle, dans son incarnation, le Fils de Dieu s'est comme rapproché de nous en se revêtant de notre chair. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, pendant sa vie ici-bas sur la terre, va littéralement cacher sa divinité. Attention, elle est toujours là, mais elle est cachée. Sauf dans certains cas très particuliers, comme par exemple au sommet du Tabor, pour la transfiguration, il va le dévoiler sa divinité. On le voit aussi très bien dans les apparitions après la résurrection, après la fête de Pâques. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a caché vraiment littéralement sa divinité pendant la Passion, va cette fois-ci publiquement montrer les effets extraordinaires de sa divinité. Donc c'est à nous de faire un petit peu la même chose. Nous avons en nous aussi une manifestation, en quelque sorte, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce sanctifiante. Eh bien, il nous faut faire attention de ne pas laisser dépérir cette grâce sanctifiante. Si je la laisse dans mon âme sans m'en occuper, sans l'alimenter par les choses spirituelles, par la prière, par la pénitence, par les sacrements, elle va dépérir, finir par partir, par me quitter. Donc, nous ne pouvions aller à notre Seigneur, retenu que nous étions par les liens du péché, disent les pères. Mais il est venu lui-même à nous, il est venu jeter la semence de son amour qu'il a répandue avec profusion. Donc le semeur qui sort pour semer représente notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient semer la semence de sa doctrine dans nos âmes. Mais il la répand tout en respectant en quelque sorte le terreau qui reçoit cette semence divine. C'est pour ça que la semence va tomber un peu n'importe où. Il y en a qui va tomber dans la bonne terre, elle va donner du fruit tout de suite, et puis il y en a qui vont tomber sur les rochers, sur le chemin, ou sur le caniveau, dans les épines du caniveau, qui ne vont rien donner. Notre Seigneur Jésus-Christ nous montre ainsi, si vous voulez, qu'il ne va pas nous forcer à la conversion. Il nous propose la conversion, mais c'est à nous de préparer le terrain. Si je ne veux pas préparer le terrain, enlever les épines, les ronces, les pierres, eh bien la semence que notre Seigneur Jésus-Christ va donner va dépérir par faute de bonne terre humide. Donc, il répand avec profusion cette semence, mais le résultat de la semence va dépendre aussi de la façon dont nous répondons à cette grâce divine. Donc notre Seigneur sortit pour semer, c'est-à-dire qu'après avoir appelé à la fois la partie de la synagogue qu'il avait prédestinée, il alla répandre les dons de sa grâce sur les gentils qu'il avait également appelés à croire en lui. Donc au début, notre Seigneur Jésus-Christ va jeter la semence dans le champ de l'Église juive, de l'entité juive, justement, parce que c'est ce groupe humain qui a été préparé pendant tout l'Ancien Testament, recevant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voyant que malheureusement une grande partie de ce groupe refuse notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur va sortir de ce terreau pour aller sur un autre terreau et qui va préparer justement de ses grâces pour que ce terreau aussi puisse recevoir la bonne nouvelle du salut. C'est pour cela que les pères disent qu'il alla répandre les dons de sa grâce sur les gentils. Mais dans les deux cas, que ce soit avec les Juifs, que ce soit avec les Juifs ou les gentils du Nouveau Testament, mais notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, ne nous oblige pas à la conversion. Il ne veut pas nous secouer comme un prunier pour nous obliger à nous convertir. Il respecte notre libre arbitre. C'est bien la source de bien nos malheurs. Le bon Dieu, encore une fois, n'a pas voulu être servi par des machines, par des robots. Il veut être servi par des hommes libres. Alors, c'est d'abord La semence, nous dit l'Évangile, verset 4, elle tombe sur le chemin, le long du chemin. Et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Donc cette route, c'est l'âme continuellement battue sous les pas des mauvaises pensées qui empêchent la semence de la parole de germer en elle. Ainsi, tout ce qui tombe de bonnes semences le long de ce chemin ne tarde pas à périr, à être enlevé par les démons. Les démons, on va voir, qui sont figurés par ces oiseaux du ciel. Donc ils vont enlever la grâce sanctifiante tout de suite de l'âme, ou les grâces actuelles tout de suite de l'âme qui la reçoit, pour que l'âme qui la reçoit n'en profite pas. Donc, si vous voulez, de même que le grain qui tombe sur la route, sur le chemin, est immédiatement abîmé par les passants qui vont marcher dessus, et qui vont en marchant sur le grain qui est tombé sur la route, vont l'écraser. Donc il donne rien de bon, plus rien, il ne peut pas germer parce qu'il a été écrasé par les pas. Ça représente justement l'âme qui accepte en son sein tous les bruits du monde, toutes les activités du monde, toutes les activités mondaines du monde, toutes les mauvaises pensées du monde. Et ces mauvaises pensées vont marcher, marteler en quelque sorte le terreau de notre âme. Et du coup, ben, le terreau va devenir dur comme une pierre et ne pourra rien donner. Rien qui va germer parce que justement, l'âme n'a pas fait attention à préserver son intégrité. C'est une chose d'avoir une âme, c'en est une autre de préparer notre âme pour qu'elle puisse recevoir la parole divine. Alors les oiseaux du ciel vont venir et manger la semence. Donc ces démons sont figurés par ces oiseaux du ciel, parce qu'ils habitent dans les airs, et à cause de leur nature spirituelle et céleste. Donc de même que les oiseaux volent dans le ciel, de la même façon, les démons travaillent dans notre milieu de vie pour littéralement que nous respirions ces démons et l'influence du démon par nos cinq sens. Alors nous ne pourrons plus rien faire pour nous protéger. Oui. Donc, c'est à nous. Faut pas se dire, on va expliquer ça après avec les textes des pères, il ne faut pas se dire, bon, ben, c'est pas de ma faute, la graine est tombée sur le chemin, donc comme il y a les passants qui passent, il y a les oiseaux du ciel qui vont tout manger, donc il n'y a rien, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que la graine n'a pas été déposée par le semeur au bon endroit. En fait, c'est faux parce que selon la réponse à la grâce, mon âme va devenir un terreau de bonne qualité, dans laquelle la grâce va pouvoir fructifier, ou mon âme, si je m'en occupe pas suffisamment, va devenir comme le bord du chemin avec les épines qui étouffent, qui empêchent la grâce de donner du fruit, voire même, si je m'occupe pas du tout de mon âme, mon âme va être transformée en un chemin sur lequel les gens passent, les oiseaux du ciel passent au-dessus et mangent tout, et détruisent tout, et écrasent tout, et plus rien. Mais c'est pas la faute du bon Dieu. Il faut pas dire c'est le bon Dieu, c'est la faute de Dieu si mon âme se présente comme une terre dure qui ne peut pas recevoir de semences. Non. Le bon Dieu me donne les grâces pour que mon terreau soit prêt, pour que mon terrain soit prêt, pardon, et que la terre soit meuble et soit suffisamment humide pour recevoir la sentence et donner du fruit. Et c'est ça le problème, c'est que le bon Dieu, encore une fois, travaille avec notre volonté propre. Il détruit pas tout. Passons à la page 23. Donc, utilisons encore un peu les textes des pères pour essayer de comprendre cette parabole magnifique. Donc, ceux qui sont le long de la voie, d'ailleurs, leur âme est devenue comme un chemin de passage pour tout le monde, sont les négligents et les paresseux. Une partie de la semence tomba sur un endroit pierreux. Pourquoi? Parce que la pierre, c'est la dureté d'une âme entièrement pervertie. La terre, la douceur d'une âme obéissante. Enfin, le soleil représente l'ardeur de la persécution. Donc, de même que le soleil va brûler la terre, de la même façon, la persécution va brûler les âmes. Et si la semence tombe dans les endroits pierreux où il n'y a pas beaucoup de terre, donc cela représente l'âme qui est devenue dure. Et étant trop dure, parce qu'elle compte beaucoup trop sur ses propres forces, et basée sur notre Seigneur Jésus-Christ, elle n'est plus capable d'être investi par la semence. La semence va tomber, mais le vent va la souffler et les oiseaux du ciel vont venir la manger. Au contraire, la profondeur de la terre, du bon terreau qui doit recevoir la semence divine, c'est la bonté d'une âme façonnée à l'exercice des vertus chrétiennes et formée par une sage règle à obéir aux enseignements divins. Si on voit bien dans ce texte que même pour la semence qui tombe dans la bonne terre, cela va dépendre de beaucoup de choses. Parce que le grain tombe dans la même propriété, si vous voulez, mais il y a des parties qui vont donner du 30%, des parties qui vont donner du 60%, et des graines qui vont donner du 100%. Donc le terreau ne fait pas tout. Il faut encore que la bonne volonté travaille avec la graine dans le bon terreau pour augmenter la quantité de fruits qui vont venir de la graine originale. Les endroits pierreux qui n'ont pas la force de fixer la racine, ce sont les arbres que le charme de la parole sainte et la suavité des espérances célestes enflamment subitement, mais qui à l'heure de la tentation ne savent pas résister. Le désir du salut est trop faible chez elles pour faire germer la parole de vie. Les endroits pierreux figurent donc ces âmes trop légèrement attachées à la pierre, c'est-à-dire à Jésus-Christ, qui ont à peine accueilli les célestes enseignements qu'elles le repoussent et se retirent. Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été considéré comme le roc de la foi. Donc la pierre représente aussi notre Seigneur Jésus-Christ, pour bien marquer la solidité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en tant que Dieu est solide comme le roc. Encore faut-il qu'on soit attaché à cette pierre. Et si je suis pas assez attaché à cette pierre, par manque de foi, bien évidemment, la pierre va m'écraser. Donc les épines ensuite, une autre partie de la semence tomba au milieu des épines. Ces épines, ce sont les âmes qui se laissent habituellement préoccuper de 1000 soucis dont les épines sont la figure. Donc les épines représentent en fait les concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Ce sont toutes les distractions qui nous empêchent de maintenir notre âme dans le bon chemin. Les épines représentent aussi, d'après certains pères, tout simplement, surtout les richesses. Les richesses qui vont écraser l'âme pour l'empêcher de se développer. Lorsqu'une semence tombe dans un lieu où il n'y a pas d'épines, elle va commencer à germer parce qu'il y a encore un peu d'humidité sur la terre, mais elle ne peut pas se développer parce qu'il y a des épines partout. Bon, de la même façon, une âme qui est trop attachée au bien de ce monde, qui est trop attachée aux richesses, par exemple, ne peut pas se développer parce que les richesses, les choses matérielles, l'empêchent de se développer normalement. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit bien que nul ne peut servir Dieu et Mammon. Il faut faire un choix et nous arranger pour qu'il n'y ait pas d'épines sur notre terre. Les épines, encore une fois, représentent l'attachement des choses matérielles, l'attachement du monde. Celui qui veut suivre notre Seigneur, première chose, doit commencer à se couper des choses de ce monde. Suite en avance, voilà l'explication maintenant que notre Seigneur Jésus-Christ va donner de cette parabole, versets 10 à 20 du chapitre 4 de Saint Marc. Il va donner cette explication aux seuls apôtres. Lorsqu'il se trouva seul, les 12 qui étaient avec lui l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur disait, « À vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin que regardant, ils voient et ne voient pas. En écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Celui qui sème, sème la parole. Il y en a qui sont le long du chemin où la parole est semée. Mais lorsqu'ils l'ont entendu, Satan vient aussitôt et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Il y en a d'autres, pareillement, qui reçoivent la semence en des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais n'ayant pas de racines en eux-mêmes, ils ne durent qu'un temps. Et lorsqu'il survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Il en est d'autres qui reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais les sollicitudes du siècle, l'illusion des richesses et les autres convoitises entrant en eux étouffent la parole et elle devient infructueuse. Enfin, ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre sont ceux qui écoutent la parole, la reçoivent et portent du fruit, l'un 30 pour un, l'autre 60 et l'autre 100. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci, qui lui-même va donner la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Et donc il montre bien ainsi que dans la plupart de ses enseignements, derrière le sens matériel de la parabole qu'il explique à ceux qui l'écoutent, eh bien, il y a un sens caché. Et là, c'est une preuve justement supplémentaire, si c'était nécessaire pour ceux qui ont des doutes, que derrière le sens historique positif de l'évangile, derrière la lettre de l'évangile, il y a un sens caché très souvent, et c'est ce sens caché qui nous est expliqué par les pères de l'Église. Alors, la première chose que font remarquer les pères, c'est que le quart seulement de la semence a produit des fruits. Cela montre que les méchants sont nombreux et au contraire qu'il y en a peu qui se sauvent. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, hein, large et la porte, la voie qui mène au salut, peu sont ceux, et nombreux sont ceux, pardon, je reprends, large et la voie, large et la porte qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui l'utilisent. Et combien étroite et resserrée la porte qui mène au salut éternel, et combien peu sont ceux qui vont l'utiliser. Donc que les méchants sont nombreux, au contraire, qu'il en ait peu qui se sauvent. Voyez-vous ce qu'a dit notre Seigneur ? Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Et ce n'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé dans l'Évangile 63 fois de l'enfer. Ce n'est pas pour rien. C'est justement pour nous expliquer, attention, si vous n'êtes pas capable de me suivre par amour, suivez-moi au moins par crainte. Donc le laboureur qui sèmerait de cette façon ne pourrait justifier sa conduite. Bon. Il sait parfaitement qu'un chemin battu, un terrain pierreux ou couvert de ronces et d'épines ne peut devenir fertile. Donc dans bien des cas, malheureusement, il y a une mauvaise volonté évidente. C'est-à-dire que la terre, je veux dire, la semence tombe sur le chemin, tombe dans les épines. Mais c'est de ma faute, parce que j'ai gardé des épines et des pierres dans le chemin, dans mon terrain. Si j'avais utilisé mon énergie pour nettoyer mon terrain, pour enlever les épines, pour enlever les pierres, eh bien, la semence aurait pu tomber dans les bons endroits tout de suite et donner immédiatement du fruit. Mais par paresse, par orgueil, je ne me suis pas occupé de mon âme et donc je dois venir en payer les conséquences. Passons à la page 24. Alors, une autre interprétation intéressante des pères, ils disent que la pierre peut devenir fertile, le chemin peut cesser d'être foulé aux pieds par les passants et on peut arracher les épines. Dieu, dans sa bonté, permet parfois que quelqu'un qui a une âme toute pierreuse, pleine de ronces et d'épines, donc pas du tout prédisposé à recevoir la semence, eh bien le bon Dieu peut permettre que des gens comme ça, touchés par la grâce, arrachent les épines. Arrache les épines, arrache les mauvaises herbes, enlève les pierres du terrain et commence à labourer pour préparer l'arrivée de la grâce de Dieu. Donc la pierre peut devenir fertile, le chemin peut cesser d'être foulé aux pieds par les passants et les épines peuvent disparaître et être brûlées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde peut se convertir. Avec la grâce du bon Dieu, tout est possible. Même quelqu'un qui a une âme toute empierrée, je dirais pleine d'épines, eh bien, peut se convertir. Donc, ceci doit nous remplir d'une grande confiance en Dieu. Et jamais trop tard pour bien faire. Parfois, il y a des âmes qui disent, monsieur l'abbé, le chariot est trop embourbé, c'est beaucoup trop tard, qu'est-ce que je fasse ? Moi, j'ai pris des tas de mauvaises habitudes, j'ai des péchés à plus savoir où les mettre, ils sont partout, je tombe dans les péchés graves toute la journée, qu'est-ce que je fasse ? Il faut compter sur le bon Dieu. Le bon Dieu permet les conversions. Le bon Dieu permet les demi-tours. Et permettant les demi-tours, il permet les retours vers lui. Regardez, c'est le travail qu'il a fait sur Sainte Marie-Madeleine, sur Zachée, sur sur Saint Paul, et tous ces gros pécheurs, sur Saint Augustin aussi. Et on voit très bien comment le bon Dieu est parti et descendu littéralement au niveau des hommes en acceptant de devenir comme eux, en tout sauf le péché, bien sûr, pour les faire remonter vers lui. Donc, s'il n'en était pas ainsi, le divin semeur n'aurait pas répandu sa sémence sur ces terrains. En le faisant, il nous a donc laissé l'espérance du pardon. Ça veut dire que même si la graine tombe dans les épines, sur des pierres, sur un terrain pierreux, il y a l'espérance du pardon qui demeure. Ça veut dire que si je me mets au travail avec la grâce du bon Dieu, parce que je ne peux rien pas répondre à la grâce, on a une grâce actuelle du bon Dieu, mais le bon Dieu, dans sa miséricorde, est prêt à me donner des grâces actuelles pour que je réponde à la grâce et que je puisse enlever les pierres du chemin, enlever les racines, déraciner les racines, les épines. Donc Dieu accorde la lumière et l'intelligence, en haut de la page 24, à ceux qui les demandent. Mais il laisse les autres dans leur aveuglement pour ne pas avoir à châtier plus rigoureusement des hommes qui, comprenant leurs devoirs, ont refusé de les accomplir, de peur qu'ils ne se convertissent et que je leur pardonne leurs péchés. Là, il y a une leçon extraordinaire dans ce texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses. D'abord, l'aveuglement. Je ferme les yeux, je ne vois plus rien parce que j'ai les yeux fermés. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous fait dire par les pères qu'il est encore plus grave de comprendre nos devoirs et de refuser de les accomplir. Donc, le mauvais chrétien est plus coupable que le païen. Le païen, c'est l'aveugle. Il n'est pas au courant, il ne sait pas que Dieu existe, littéralement. Tandis que le mauvais chrétien, il a des devoirs, il sait qu'il a des devoirs, il sait que Dieu existe, et volontairement, il refuse de se soumettre à la volonté divine, donc c'est plus grave. Et c'est malheureusement quelque chose de très très fréquent aujourd'hui. On appelle ça les catholiques non pratiquants. C'est des gens qui me disent, monsieur l'abbé, moi je suis catholique mais non pratiquant. C'est-à-dire, je crois en Dieu, mais dans la pratique, je fais comme s'il n'existait pas, je me moque complètement de lui. Mais c'est bien plus grave de croire en Dieu et pas suivre sa loi, que de ne pas croire en Dieu et d'être un athée complet parce que je n'ai pas la connaissance de l'existence de Dieu. Et donc Dieu donne à chacun d'entre nous les grâces dont nous avons besoin pour sauver nos âmes. Attention. Alors, Saint Bède, le Vénérable, va expliquer un peu ce qu'il dit. Dans l'explication que le Sauveur donne lui-même de cette parabole, se trouvent comprises les diverses classes de personnes qui entendent la parole sainte et qui cependant ne peuvent parvenir au salut. Ça ne suffit pas d'entendre la parole, il faut encore la mettre en pratique. Il en est qui l'entendent 100 fois, sans intelligence, sans même faire un effort pour en tirer quelques profits. Donc c'est les gens qui écoutent la parole, la prédication, qui lisent un bon livre par exemple, mais qui ne cherchent pas à y arrêter leur intelligence. Et donc ça passe, comme on dit vulgairement, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Parce qu'ils entendent la parole 100 fois sans intelligence. C'est d'eux qu'il est dit, ceux qui se trouvent le long du chemin. Donc, ceux qui se trouvent le long du chemin, c'est ceux qui refusent de travailler sur leur propre terre pour enlever les épines et les cailloux. Donc, à peine la parole sainte a-t-elle été déposée dans leur cœur, qu'elle est enlevée par les esprits impurs, semblables aux oiseaux qui enlèvent la semence qui est tombée sur un chemin battu. Notons que les oiseaux du ciel vont venir dévorer la semence tout de suite, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre quelques jours après que la semence ait été jetée par le semeur avant de venir. Parce qu'ils savent que s'ils attendent, qu'est-ce qui se passe? La semence aura le temps de germer, les petites radicelles vont sortir de la semence et accrocher fermement la semence à la terre. Et donc, si les radicelles sont là pour empêcher la semence d'être enlevée par le vent, par les oiseaux, donc les oiseaux n'arriveront plus à l'enlever parce qu'elle est déjà fixée dans son lieu où elle a atterri. Et donc, les oiseaux viennent tout de suite, c'est-à-dire le démon vient tout de suite, il n'attend pas. Dès qu'il suspecte que quelqu'un veut se convertir, le démon va venir immédiatement pour accaparer cette âme et l'empêcher de réfléchir. L'empêcher de prendre son temps pour réfléchir. Donc le démon vient tout de suite pour essayer d'enlever la grâce actuelle d'une âme. Donc il faut craindre, eh bien, chers frères, les grâces qui passent et qui ne repassent pas. Souvent, on ne réalise pas ces choses-là. Parce qu'on ne voit que certaines choses, on ne voit pas tout. Notre Seigneur Jésus-Christ est encore une fois plein de miséricorde à notre égard, mais il nous demande une coopération. Certes, cette coopération à sa grâce ne peut pas être rendue active sans une grâce actuelle du bon Dieu. Mais la grâce actuelle du bon Dieu ne détruit pas notre volonté propre. Encore une fois, c'est le grand, grand mystère, peut-être le plus grand mystère du christianisme, à savoir la cohabitation, la toute-puissance de la grâce du bon Dieu avec le respect de notre libre arbitre. Alors, posons-nous la question, est-ce que je ne suis pas un peu comme ça moi-même? Est-ce que je n'écoute pas la parole de bon Dieu sans foi, sans intelligence, sans faire un effort pour en tirer quelques profits? Combien de fois on voit ça, on prêche, on essaie d'expliquer, et puis il y a des gens qui se convertissent et des gens qui ne se convertissent pas du tout. Oui. On le voit par exemple très facilement dans les paroisses. On prêche devant un groupe par exemple de 200, 300 personnes. Ça m'arrivait régulièrement quand j'étais dans la fraternité Saint-Pélice. On prêche. Et puis, on voit très bien que la même prédication va produire des effets complètement différents selon les âmes qui reçoivent cette prédication. Donc, on va avoir des personnes qui écoutent avec grand soin ce qui est dit et qui prennent préventivement même quelques notes ou qui cherchent à comprendre ce qui est dit et qui veulent mettre tout cela en pratique. Et puis, on a en même temps souvent des jeunes ou des moins jeunes qui écoutent la parole, mais qui s'en fichent complètement. Il y en a qui n'écoutent même pas d'ailleurs, ils dorment. Où il parle avec le voisin, il se fiche complètement de ce qui est dit. Et encore une fois, cela montre à quel point Dieu respecte notre liberté. Alors d'autres, au contraire, reconnaissent l'utilité, ressentent le désir de pratiquer la parole qu'ils viennent d'entendre, mais leurs efforts n'aboutissent à rien, mais ils cèdent les uns à la crainte des tribulations, les autres à l'attrait des plaisirs que promet la prospérité. Alors, la crainte des tribulations, c'est représenté par le grain qui tombe sur une terre pierreuse. Et l'attrait, ce qui succombe à l'attrait des plaisirs que promet la prospérité, c'est-à-dire la richesse, représente la graine qui est tombée dans les épines. Hein, les épines, si vous voulez, imaginez que vous êtes tombé dans un buisson d'épines, vous ne pouvez plus respirer parce que si vous essayez de rentrer de l'air propre dans vos poumons, d'augmenter la masse de votre thorax avec l'air nouveau qui rentre dans les poumons, dans les poumons, eh bien, les épines qui vous entourent comme une seconde peau vont rentrer encore plus profondément dans la chair. Alors on ne peut plus bouger parce que justement on se rend compte que plus on cherche à se dégager, plus c'est terrible. Et donc, encore une fois, on voit ici la même idée, c'est-à-dire que la graine qui tombe au milieu des épines représente l'attrait des plaisirs du monde. L'attrait des plaisirs du monde. Ce Seigneur va même expliquer, c'est au verset 19, 18 et 19, il y en a d'autres qui reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais les sollicitudes du siècle, l'illusion des richesses et les autres convoitises entrant en eux étouffent la parole et elle devient fructueuse. On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ces sollicitudes du siècle, cette illusion des richesses et ces convoitises? Eh bien, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de la liberté, d'égalité, fraternité, hein, c'est ça. C'est là. Rappelez-vous les promesses de la franc-maçonnerie, toujours les mêmes. Si tu me suis, si tu te donnes à moi, je te donnerai l'argent, je te donnerai les honneurs, je te donnerai toutes les facilités du monde. Les honneurs, les facilités et l'orgueil. L'orgueil, les honneurs, pareil, et l'argent. Vous voyez? Donc, ces préoccupations mondaines, qui vient de l'amour des richesses, empêche justement l'âme de se développer normalement, comme la graine qui est tombée dans les épines ne peut pas se développer. Donc les épines sont bien ces sollicitudes du siècle, ces illusions de richesse, qui font une sanglante blessure aux âmes. Disent les pères, dès lors que l'homme s'est laissé séduire par le désir immodéré des richesses, il ne peut échapper aux soucis incessants qui le déchirent, et notre Seigneur ajoute pour cette raison, les autres objets de convoitise. On peut vraiment dire, on le voit très bien dans le monde moderne, que la richesse est certainement ce qui dessèche le plus l'âme. Peut-être encore plus que les péchés d'impureté. Parce que les péchés d'impureté, c'est toujours mauvais. Les richesses ne sont pas forcément toujours mauvaises. Il peut y avoir des cas où quelqu'un a une certaine richesse sans qu'il y ait eu faute de sa part. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu d'exaction, il a travaillé dur, il a réussi son entreprise marche, il fait de l'argent. Il a une certaine richesse, une certaine aisance financière. Ce n'est pas un péché. Et, mais très vite, si on accepte ces richesses, on va s'y attacher. C'est l'attachement aux richesses qui est dangereux. L'attachement aux richesses, justement, va empêcher l'âme de se développer normalement. C'est pour ça que les richesses sont assimilées aux épines. Les épines, notez que les épines n'empêchent pas le début de la germination de la semence, mais empêchent son développement. De la même façon, même avec des richesses, on peut avoir encore au moins au début la grâce du bon Dieu, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que les richesses vont nous entraîner dans des domaines dans lesquels on ne peut pas vivre sans offenser bon Dieu. C'est impossible. Donc celui qui met de côté la loi du Seigneur, disent les pères, et laisse ses désirs s'égarer sur les objets sensibles, sur les richesses, les choses matérielles de ce monde, se ferme à lui-même le chemin de la joie et du bonheur. C'est ça que les gens qui sont toujours en train de courir après le gain, qui ont un appât du gain extraordinaire, sont des gens qui sont jamais heureux. Sont jamais heureux parce qu'il en faut toujours davantage. Dès qu'ils ont quelque chose, ils veulent en avoir plus. Dès qu'ils ont quelque chose, ils veulent dépasser le voisin. Et donc, ils n'ont jamais de joie, jamais de bonheur, ils ne sont pas capables de s'arrêter pour jouir même de leur richesse. Il en faut toujours, toujours plus. C'est pour ça que, en général, j'ai remarqué, on voit très bien dans le monde moderne, les gens trop riches, les gens qui ont trop de richesses, sont des gens qui sont jamais, jamais en paix. Jamais en paix, ils sont toujours en train de courir pour en avoir davantage. Donc ces passions étouffent la parole sainte en étant au bon désir la force de parvenir jusqu'au cœur. Elles tuent l'âme en la privant du souffle destiné à entretenir la vie intérieure. Voyez, donc on peut dire que la vie intérieure, c'est comme la sève de l'arbre. Pas de sève, l'arbre meurt, la branche meurt. De la même façon, une âme qui n'est pas entretenue par une vie intérieure sérieuse, entre autres par la méditation quotidienne, c'est une âme qui va se dessécher. Notons que lorsqu'une branche se dessèche, elle ne va pas tomber de l'arbre tout de suite, hein. Elle va rester sur l'arbre pendant un certain temps. Bon, elle va perdre d'abord ses fruits, ses fleurs, ses feuilles, parce qu'elle n'a pas de sève qui l'amène une vie. Et donc, elle va devenir de plus en plus fragile, de plus en plus sèche. Mais il est toujours possible, avec la grâce de mon Dieu, il est toujours possible pour la nature de reprendre ses droits. Et si on arrose bien l'arbre ou la plante en question, eh bien, elle va reverdir, la branche va reverdir et redonner de nouveau des feuilles, puis des fleurs et des fruits. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une branche desséchée ne va pas rester comme ça, accrochée à son tronc pendant longtemps. Elle devient de plus en plus faible, ce qui fait qu'un jour d'orage, un gros vent qui secoue l'arbre et hop, la branche tombe. Elle se craque, elle se casse, elle quitte l'arbre et tombe au pied de l'arbre. Et là, c'est fini. Parce qu'une fois qu'une branche sèche est tombée au pied de l'arbre, on ne peut plus la sauver. C'est impossible, parce qu'il n'y a plus de racines. Il n'y a plus donc de possibilité, il n'y a plus de puissance qui peut passer à l'acte, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sève et la sève ne reviendra jamais parce qu'il n'y a plus de contact avec le réservoir de la sève. Cependant, il faut quand même préciser aussi que le bon Dieu peut faire des miracles. Le bon Dieu peut faire des miracles et ramener à lui des gens qui sont éloignés de lui, même pendant très longtemps. J'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois, dans les exercices Saint-Ignace. Des retours extraordinaires à la grâce de personnes qui se sont séparées de la grâce du bon Dieu pendant parfois de très longues années. Le bon Dieu permet des retours, il donne des grâces. Il donne des grâces. Donc attention à préserver, c'est la conclusion de cette partie, attention à préserver la vie intérieure. Parce que justement, la préservation de cette vie intérieure va permettre de garder mon âme en vie. C'est ça qu'on parle d'une vie intérieure. Ben, s'il n'y a pas de vie intérieure, c'est la mort intérieure qui arrive. C'est-à-dire, si je nourris pas mon âme avec la prière, l'esprit de pénitence, les sacrements et l'étude, ben, mon âme va défaillir. Puis pas pour rien que le bon Dieu a mis dans notre âme une intelligence, une volonté, un irascible, un concupiscible. Il faut entretenir tout ça. Si je ne protège pas mon intelligence, si je n'éduque pas ma volonté, si je ne renforce pas mon irascible et je ne lutte pas contre les concupiscences, eh bien, je vais me faire dominer malheureusement par toutes ces choses-là, et mon âme va se dessécher, mon intelligence va se dessécher, pardon, ma volonté va se dessécher, le concupiscible et l'irascible vont aussi également se dessécher. Donc attention, préserver cette vie intérieure, toujours les mêmes exigences, la prière, la pénitence, l'usage des sacrements et l'étude. Très important. L'étude, c'est comme une sève. Plus d'études, l'intelligence s'étiole, puis finit littéralement par se dessécher. Il est triste de voir le nombre de nos fidèles qui n'étudient pratiquement jamais, prétendent ne pas avoir le temps. Par contre, ils ont le temps pour les tâches matérielles, ils ont le temps pour se maintenir à flot en matière matérielle, sur le plan professionnel par exemple, sur le plan social, mais ils ne se préoccupent absolument pas de maintenir leur âme à flot sur le plan spirituel. Et je vous assure, moi je dis souvent ça aux gens, mais bon sang, bonsoir, si vous faisiez pour votre âme le dixième de ce que vous faites pour préserver votre corps et garder votre corps en bonne santé, mais vous seriez un saint depuis longtemps. Il faut voir, dans le monde moderne, c'est ahurissant. Dès qu'il y a le moindre petit bobo, la moindre petite coupure, tout de suite on va voir le médecin, on va voir le pharmacien, on va se soigner pour être sûr que notre corps retrouve la santé immédiatement. Et puis par contre, on se moque complètement de notre âme, on ne s'en occupe pas. Eh bien, je vois par exemple les sacrifices invraisemblables que sont capables de faire des gens pour des histoires purement matérielles. Soit pour augmenter leur salaire, leur augmenter leur train de vie, augmenter leur niveau de vie, augmenter leur santé physique tout simplement, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Le médecin vous dit par exemple, ben voilà, il y a un problème cardiaque chez vous, il faut faire un effort, sinon ben vous allez mourir parce que votre cœur bat trop vite, il y a une tachycardie là qui est dangereuse, il faut absolument que vous perdiez du poids, monsieur. Voilà. Et si vous ne perdez pas 10 kilos, eh bien, votre cœur va lâcher et vous allez mourir. Eh bien, les gens se mettent à un jeûne énergique pour perdre 10 kilos. Mais par contre, si moi après, j'arrive après, je dis, écoutez, votre âme est en mauvais état, il faudrait peut-être s'en occuper un petit peu. Hein? Alors, il faudrait maintenant faire un petit peu pénitence quand même pour s'occuper de cette âme et l'aider à retrouver sa vie intérieure un peu forte. Alors, il faut quand même que vous fassiez un effort pour vous confesser un peu toutes les semaines pendant un certain temps, faire un peu pénitence, et donc jeûner un petit peu, même une fois par semaine, pour arriver à vaincre les tentations qui vous assaillent et protéger votre âme. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis trop fatigué pour ça. Et les gens n'ont plus le temps. Donc ils se préoccupent énormément de leur corps, ils ne se préoccupent pas du tout de leur âme. Encore une fois, s'ils se préoccupaient autant de leur âme que de leur corps, ils seraient au ciel depuis longtemps. Mais c'est là justement le travail de la révolution. Pousser les gens à se préoccuper énormément de leur corps pour oublier l'âme. Pousser les gens à se préoccuper énormément des choses superficielles pour qu'ils aient plus le temps de s'occuper des choses importantes. Pousser les gens à s'occuper des choses qui passent pour ne pas avoir le temps de s'occuper des choses qui ne passent pas. Alors, dans ces diverses classes, disent les pères, les infidèles qui ne méritent point, ne sont pas compris, les infidèles qui ne méritent même point d'entendre la parole de Dieu. C'est terrible comme phrase. C'est-à-dire que, d'après les pères de l'Église, certaines personnes ne méritent même pas d'entendre la parole du bon Dieu, parce qu'il n'y a pas le minimum de bonne volonté. Alors ensuite, les pères vont se pencher sur cette distinction que fait notre Seigneur dans le rapport que donne la plante qui germe. C'est au verset 8. Une autre partie tomba dans une bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, de sorte qu'un grain rapporta 30, un autre 60 et un autre 100 pour 1. Et au verset 20, c'est la même chose. Ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre sont ceux qui écoutent la parole, la reçoivent et portent du fruit, l'un 30 pour 1, l'autre 60 et l'autre 100 pour 1. Alors voilà l'explication que donnent les pères, il y a des choses très belles hein, des pères de l'Église sur ce sujet particulier. Donc quelques-uns rapportent 100 pour 1, c'est-à-dire quelques graines rapportent 100 pour 1, donc un épi qui va donner 100 graines pour une. Ce sont ceux qui ont embrassé la vie de perfection et de l'obéissance, comme les vierges et les solitaires, donc les moines. Bon. Après, il y a ceux qui donnent 60 pour 1. Ce sont ceux qui mènent une vie ordinaire, comme ceux qui pratiquent la continence et qui vivent en communauté. Bon, peut-être à ce moment-là, simplement les religieux en général, ou les clercs en général, ceux qui suivent une vie sacerdotale, par exemple, ou en séminaire, ou dans la vie consacrée au bon Dieu, mais pas avec autant de zèle que les solitaires. Solitaires, c'est les anachorètes, c'est-à-dire les solitaires, ce sont les ermites, en quelque sorte. Bon, les ermites qui ont une influence considérable pour le Moyen-Âge. Enfin, il y en a qui ne rapportent que du 30. 30 pour 1. Ce sont ceux qui n'ont qu'une vertu imparfaite et qui ne produisent de fruits que dans une mesure ordinaire, sont les laïcs et ceux qui vivent dans l'état du mariage. Alors attention, il ne faut pas interpréter au sens fort tout ce que disent les pères là-dessus. Hein, parce que il est parfaitement possible pour quelqu'un qui ne donnait que du 30%, dans l'état de vie qui est le sien, de se mettre à augmenter sa vie spirituelle, commencer à donner du 60% et même du 100%. Donc, même si ceux qui rapportent du 100% représentent les solitaires, ceux qui rapportent du 60% représentent les autres religieux, les ecclésiastiques, et ceux qui rapportent du 30% représentent ceux qui sont sur la voie commune, il y a les laïcs et ceux qui vivent dans l'état de mariage, cependant, bien se mettre dans la tête que, Dieu aidant, je peux passer d'une classe à l'autre. De la même façon qu'un anachorète peut perdre son rendement de 100% et se retrouver avec un rendement de 60% et puis finalement un rendement de 30%. Vous voyez? Et il sera châtié par le bon Dieu d'une certaine façon. Parce que celui à qui le bon Dieu a donné des grâces particulières pour donner du 100%, s'il ne donne que du 60 ou du 30, c'est pas assez. Par contre, celui qui a reçu du bon Dieu des grâces pour donner du 30%, s'il donne du 30%, c'est déjà énorme pour lui, parce qu'il a rempli son contrat avec notre Seigneur. Et s'il donne du 60%, voire même du 100%, c'est encore extraordinaire. Vous voyez ? Donc, prenez deux personnes. Une personne qui a reçu des grâces pour donner du 100%, qui ne donne que du 30%, d'une part. D'autre part, une personne qui a reçu des grâces pour ne donner que du 30% et qui donne ce 30%, eh bien, la deuxième catégorie, la deuxième personne peut se sauver, avoir un degré de gloire extraordinaire au ciel, alors que la première n'a pas rempli son devoir d'État, parce qu'en fait, elle devait donner beaucoup plus que ce qu'elle n'a donné. Donc il ne faut pas, Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison, ne cherchez pas à imiter les saints, vous allez imiter leurs défauts. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des saints qui ont passé 30 ans au sommet d'une colonne de 10 mètres de haut pour vivre comme des anges là-haut, qu'il faut en faire autant. Non! Parce que le bon Dieu demande des choses différentes à chaque âme. Alors, Saint Jérôme, dans une autre explication, il y a plusieurs explications pour ces passages. Saint Jérôme, il explique que les fruits de la terre sont représentés par ces divers nombres, 30, 60, 100. Donc le premier nombre, 30, représente les époques de la loi mosaïque, puis 60 représente l'époque des prophètes, et 100% l'époque du Nouveau Testament, l'Évangile. Donc l'évangile donne beaucoup plus. C'est pour ça que l'évangile est associé au chiffre 100. Alors qu'au contraire, au début, la loi mosaïque, eh bien, la sanctification était plus compliquée, parce qu'il n'y avait pas encore les sacrements. Et donc, sous la loi mosaïque ou sous les prophètes, eh bien, on était encore au niveau de la nature, si vous voulez, eh bien, à ce moment-là, les âmes donnaient beaucoup moins. Donc n'oublie pas qu'il y a plusieurs degrés. D'abord la nature, puis la grâce au-dessus, puis enfin la gloire au ciel. Et donc, ben, vous ne pouvez pas demander à celui qui est encore au niveau de la nature de donner autant que celui qui est au niveau de la grâce. Et celui qui est au niveau de la grâce ne peut pas donner autant que ce qu'il donnera une fois qu'il sera au niveau de la gloire au ciel. Alors, d'autres exemples donnés par les pères. Ici, Saint Bède le Vénérable, encore lui. Voilà ce qu'il dit. La terre produit 30%. Lorsque le prédicateur imprime dans le cœur des élus la croyance au mystère de la Sainte Trinité. Trois personnes, un seul Dieu en trois personnes, égales et distinctes. Égales parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais distinctes parce que le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Cette terre produit 60% parce qu'il enseigne les principes de la vie parfaite, parce que le prédicateur enseigne les principes de la vie parfaite, pousse à la perfection. Et enfin, cette terre peut produire même 100% parce que le prédicateur fait le tableau des récompenses du royaume céleste. Car le nombre 100 est signifié par le passage de la gauche à la droite, l'enseignement qui fructifie au centuple est donc l'image exacte de la félicité éternelle. Pourquoi ? Parce que chez les anciens, la gauche représentait la terre d'ici-bas et la droite représentait le paradis, le ciel. Et donc celui qui produit du 100, celui qui passe de la terre au ciel, par les grâces du bon Dieu qu'il a reçues, qui donc peut se couper de tout ce qu'il maintenait fixé sur cette terre, l'oblige à lever les yeux et monter vers le ciel. Passons à la page 25. Versets 21 à 25, chapitre 4 de saint Marc. Jésus leur disait aussi, « Est-ce qu'on apporte la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le candélabre? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, et rien ne se fait en secret qui ne doive paraître en public. Si quelqu'un donc a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Prenez garde à ce que vous entendrez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi envers les autres et l'on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a déjà et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Rappelez-vous, c'est le chef de famille ou le roi qui part et qui donne à chacun de ses serviteurs un certain nombre de talents. Eh bien, celui qui n'a pas reçu de talent, qui n'a pas fait fructifier son talent, eh bien, le roi va donner l'ordre à ce que son talent lui soit enlevé, qu'il soit jeté dans le lieu des pleurs et des grincements de dents, et que ce talent qui lui a été enlevé soit donné à celui qui en a déjà 10. À tel point que les serviteurs vont faire la remarque, mais il en a déjà 10. Oui, mais comme il a beaucoup donné, il recevra beaucoup. Rappelez-vous la phrase, « Notre Seigneur à Sainte Marie-Madeleine, parce qu'elle a beaucoup aimé, lui sera beaucoup pardonné. » Donc cette lampe, qu'il faut mettre sur le chandelier, sur le candélabre, pour qu'elle éclaire toute la maison et pas sous le boisseau. Le boisseau, c'était une espèce de pétrin dans lequel il gardait la farine, en général. Donc cette lampe, c'est cette nature spirituelle et intelligente qui est en nous, c'est-à-dire notre âme, et qui, selon la mesure de sa flamme, projette ou une lumière éclatante ou une lueur indécise. Elle ne se tarde pas à s'éteindre complètement si on néglige les méditations sérieuses, propres à entretenir dans cette lampe spirituelle la lumière et les pieux souvenirs. Donc c'est pas tout d'avoir une âme. On a tous une âme parce qu'on est tous hommes. Tous les hommes ont naturellement une âme puisque l'âme fait partie de notre nature humaine. Mais la nature humaine de l'âme ne suffit pas. Il faut rajouter quelque chose de surnaturel à cette nature humaine. Et ce surnaturel qu'on rajoute, c'est la grâce sanctifiante. Et donc la grâce sanctifiante va augmenter la lumière, l'intensité de la lumière. Elle va donner une lumière éclatante. Mais si l'âme vit dans le péché mortel, eh bien, cette lumière éclatante elle va s'éteindre complètement. Et si on néglige la méditation sérieuse pour se remettre sur le bon chemin, utiliser la pénitence, utiliser la prière, utiliser l'étude pour se remettre sur le chemin qui mène au confessionnal, puis du confessionnal à la communion, puis la communion à une vie spirituelle sérieuse, eh bien, on va tout perdre. Vous voyez ? Donc il faut entretenir, rappelez-vous la parabole de la lampe, hein, il faut entretenir la lampe. Les vierges sages sont rentrées avec l'époux dans la maison parce qu'elles étaient restées fidèles et qu'elles avaient pris de quoi alimenter leur lampe. Au contraire, les vierges folles qui n'avaient pas pris d'huile pour alimenter leur lampe, eh bien, vont se retrouver condamnées et ne pourront pas rentrer dans la maison. Alors saint Jérôme explique un peu plus, page 25, donc la lampe et la parabole des trois semences. Bon. Le boisseau, le lit, c'est l'intelligence de ceux qui n'obéissent point. Donc la lumière ne se voit pas parce qu'elle est sous le lit ou dans le boisseau. Le chandelier sont les apôtres que la parole de Dieu a illuminé de ses divines clartés, car tout ce qui est caché va devoir paraître, rien de caché qui ne doive être découvert, rien ne se fait en secret qui ne doive paraître en public, dit notre Seigneur. Dans cette chose cachée, dérobée au regard, c'est la parabole de la semence. La lumière vient l'éclairer quand le Seigneur en donne l'explication. N'oublions pas que pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir, fructifier, la semence a besoin de terre, elle a besoin d'humidité, mais elle a besoin de soleil aussi, elle a besoin de lumière. Eh bien, cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la lumière du monde, de celle de la terre. Donc, il faut cette lumière. Le rôle de la lumière, c'est de d'éclairer, bien sûr, mais c'est aussi de réchauffer, de protéger. C'est pour ça que le démon travaille dans l'obscurité. Il n'aime pas travailler dans la lumière, parce que dans la lumière, il a envie de se faire repérer. Donc, posons-nous cette question. Est-ce que j'ai cette lumière dans mon âme? Est-ce que cette lumière illumine mes pas et les pas des gens qui sont autour de moi. Voilà ce que disent les pères. Une lampe est destinée à répandre la lumière autour d'elle. Ainsi, tous les hommes auront les yeux fixés sur votre vie. Appliquez-vous donc à la rendre sainte Ne cherchez point les lieux obscurs, soyez véritablement une lampe. L'homme catholique devient la lumière du monde. Et on le voit aujourd'hui plus que jamais. Quand on est dans les milieux, dans une ville par exemple, moi je me rends compte avec une soutane sur le dos en tant que prêtre, quand on est dans une ville où les gens sont tous habillés comme des bandits littéralement, eh bien le prêtre en soutane, je vois tout le monde tourne le regard vers le prêtre, c'est qui celui-là? On a l'impression d'être un martien littéralement débarqué de la planète Mars sur la planète Terre. Mais le port de la soutane justement est un témoignage extraordinaire. Parce que de la soutane, les gens remontent vers celui qui est représenté derrière la soutane, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il importe que l'éclat lumineux de mon âme puisse éclairer tous ceux qui me voient. Donc, que la lampe ne soit point cachée sous le boisseau, ni sous le lit, c'est-à-dire dans les plaisirs de la table, ni dans l'oisiveté, car l'homme esclave de la sensualité et de la paresse ne sera jamais une lampe propre à répandre la lumière autour d'elle. Donc un homme qui suit ses sens, qui est ascédique, c'est-à-dire qui suit l'ascédie spirituelle, la paresse spirituelle, sera incapable de répandre la lumière. C'est ça le drame, si vous voulez, à mon avis, le drame des années 60, c'est que les catholiques ont arrêté de répandre cette lumière. Si vous voulez imaginer une lumière qui est protégée par un globe de verre, et le verre est couvert de poussière. Mais au lieu de nettoyer ce globe pour que de nouveau la lumière puisse être visible par tout le monde, bien personne ne nettoie le globe, qui s'encroûte de plus en plus dans la poussière, dans la saleté. Au bout d'un certain temps, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Imaginez un phare, et bien, le gardien du phare va faire attention régulièrement de venir nettoyer les panneaux solaires des panneaux du phare pour que la lumière puisse être bien vue par les marins. Bon, bien, si quelqu'un arrête de nettoyer les panneaux qui forment la caisse autour de la lumière, l'origine de la lumière dans le phare, eh bien, le phare va perdre sa raison d'être, littéralement. Rappelez-vous cette phrase, l'homme esclave de sa sensualité ou de la paresse ne sera jamais une lampe propre à répandre la lumière autour d'elle. Donc posons-nous cette question toute simple, est-ce que je suis une lumière capable de répandre de la lumière autour de moi? Vous voyez, il y a deux choses. D'une part, avoir la lumière allumée, il faut que la lampe de mon âme soit allumée. Première chose. Deuxième chose, il faut que cette lampe répande sa lumière autour de moi. Ce n'est pas simplement pour moi, c'est aussi pour ceux qui sont autour de moi. Et on le voit très bien, imaginez une bande de personnes, un groupe de gens qui sont perdus dans une forêt en pleine nuit, il y en a un qui a une lumière, tout le monde se rassemble autour de la lumière, mais c'est qu'une lampe pour un groupe de 50 personnes, tout le monde est autour de la lampe parce que la lumière de la personne qui a seule une luminosité va se diffuser pour aider les autres à marcher droit et trouver le chemin qui rentre au camp. Donc, selon saint Bède le Vénérable, qui est beaucoup cité oui, dans ces passages-là, ce boisseau est l'image naturelle de notre vie renfermée dans la mesure déterminée par la Providence. Ce lit, c'est notre corps, qui sert d'habitation et de lieu de repos à notre âme pendant cette vie. Donc, placer la lampe sous le boisseau ou sous le lit, c'est donc cacher la parole de Dieu par un amour excessif de cette vie passagère et des jouissances charnelles. Donc, si je m'attache trop au bien de ce monde, trop aux trois concupiscences, des yeux, de la chair, de l'orgueil, parce que je vis dans le péché, eh bien, ma lampe va arrêter de brûler, ou sa lumière ne sera plus visible au moins. Et elle va diminuer d'intensité, comme si vous voulez, une lampe à huile, elle brûle encore un peu, parce qu'il reste encore un peu d'huile au fond de la coupelle, du réservoir, mais elle brûle de plus en plus petitement, quoi. Une toute petite flamme de rien du tout, de quelques millimètres, moins de coups de vent, ça éteint tout. Donc il faut vérifier quel est l'état de ma lampe. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce que l'huile que je mets dans le réservoir est propre? Est-ce que la mèche est suffisamment longue pour pouvoir être éclairée correctement? Est-ce que le verre autour de la lampe est propre? Et si je constate que la lampe de mon âme n'est pas propre, il faut que je la nettoie. Malheur à celui qui, considérant que son âme est sale, ne cherche pas à la nettoyer. Il n'y a rien de pire. Personne qui se sait dans le péché mortel, premièrement. Deuxièmement, qui sait très bien qu'il pourrait sortir du péché mortel par une bonne confession. Troisièmement, se maintient dans le péché mortel. Il n'y a rien de pire. C'est ça le péché de présomption. Donc, faisons attention à cet amour excessif, cette vie passagère et des jouissances charnelles. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver à s'en tirer, si vous voulez, sans un minimum de vie pénitentielle. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Nous allons terminer par une petite prière. N'oubliez pas que je vous conseille toujours la même chose, hein. Après ces cours, relisez entre ce cours et le cours suivant. Ça, c'est le cours pour le 18 décembre. Donc, je remettrai un cours pour la fête de Noël. Donc, pensez à relire le polycopié pour bien vous faire pénétrer dans l'âme ces enseignements des pères de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.